temps, la vie, quoi qu'on fasse de la science, qu'on fasse du sport, qu'on fasse de la musique, il faut tout faire par passion. Ma petite expérience, c'est que la vie est extrêmement courte, qu'on va rien passer. Un jour, on a 15 ans, puis on a 20 ans, puis le lendemain, on a 60 ans, 70 ans. On a l'impression que ça a duré une soirée. Et donc, quel dommage de gâcher sa vie. Et moi, je dis à tous mes étudiants, faites n'importe quoi, mais faites quelque chose qui vous passionne. Parce que la vie, c'est court et profitez-en bien. Donc, quand on, si on est passionné par la science, eh ben, une telle aventure ne peut que vous remplir de joie. Mais on est, on peut être passionné par autre chose, évidemment. Donc, je crois que la passion... Et derrière, dans la vie en général, regardez, les gens qui font les choses en traînant les pieds, les gens qui sont tristes, ils avancent pas grand chose, ils font pas beaucoup de découvertes, ils écrivent pas des œuvres inoubliables, et ceux qui sont joyeux, ils avancent.
La voix de l'astrophysicien André Braik, c'était le 5 juin 2012 dans La Tête au Carré. André Braik nous a rendu particulièrement tristus hier lorsque nous avons appris sa disparition. Il était venu à de nombreuses reprises dans l'émission. C'était un homme très attachant que nous aimions beaucoup. Il aimait la science lorsqu'elle était follement curieuse et pleine de gaieté. André Braik était un homme du ciel, des étoiles, des planètes géantes et des anneaux de Neptune qu'il avait découverts. C'était un homme de la nuit qui commençait à travailler à l'heure où se couche le commun des mortels. Cette Tête au Carré lui est consacrée avec les invités qui vont se succéder au micro pour lui rendre hommage. Émission pendant laquelle nous réécouterons de larges extraits des entretiens que nous avons eus avec lui à ce micro. Entretiens qui, vous le verrez, sont de véritables pépites qui, pour certains, font déjà figure de moments d'anthologie. Cette Tête au Carré pour André Braik a été préparée par Stéphanie Texier, Axel Villard et Dylan Beiner.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Marie-Odile Monchicourt.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Et bonjour à vous Sébastien Charnoz.
Bonjour.
Merci d'être là aujourd'hui. D'autres invités vont nous rejoindre. Odile Jacob, dans quelques instants, l'éditrice d'André Braik. Sébastien Charnoz, vous êtes planétologue à l'Université Paris Diderot. Vous avez été l'élève d'André Braik avant de travailler avec lui sur la sonde Cassini. Quel souvenir vous gardez d'abord de lui en tant que professeur? Vous avez vraiment une grande chance de l'avoir comme prof.
Oui, c'est sûr que ça a été une chance extraordinaire. Ça a été très inattendu parce qu'au début, je devais pas faire ma thèse avec lui. Ça a été un peu le jeu du hasard. Mais effectivement, faire sa thèse avec André Braik, c'est avant tout une expérience où vous commencez à dérégler votre réveil. C'est une expérience où, en fait, c'était aussi bien une expérience scientifique qu'une aventure humaine parce que André était, bien entendu, on le sait, passionné, extrêmement dévoué envers ses étudiants et surtout ouvrant toutes les portes qui lui étaient possibles, impliquant ses étudiants dans des projets internationaux jusqu'à la limite de ce qui lui était possible. Il a tout donné et pour moi, c'est sûr que ça reste 4 des meilleures années de ma vie. Voilà.
Oui, on va souvent le dire, hein, Philippe Hénarejos, mais l'espace-temps était très déformé avec André Braik. Hein.
Oui, j'en profite pour rebondir sur ce qui a été dit, parce que dans les quelques fois où je l'ai rencontré pour faire des articles, où j'avais rendez-vous avec lui, une fois, il m'a donné rendez-vous à la fin d'un de ses cours qu'il donnait à Meudon, je crois, si mes souvenirs sont exacts. J'assistais à la fin du cours et je me suis dit quand même, en attendant qu'il ait fini son cours, quelle chance ont ces étudiants, parce que pour ceux qui ont eu la chance de l'entendre en conférence publique, ben ses cours, ça ressemblait un peu à ça par moment quand même. C'était vraiment passionnant.
Ouais. Marie-Odile Monchicourt, vous l'avez rencontré bien sûr en tant que journaliste scientifique. Alors on avait toujours des sueurs froides avec André, hein. C'était qu'il ne soit jamais là au rendez-vous. Oui. Et pourtant, miraculeusement, il était toujours là.
Oui, c'est vrai. Moi, ça me fait penser à une anecdote. J'avais besoin d'images pour une émission de télévision à laquelle il participait. Ça devait être des images de Saturne. Et impossible de le joindre. Finalement, il me donne rendez-vous un soir à 1h du matin.
C'est normal.
dans chez lui, en banlieue. Donc, j'y vais. Et puis, il me dit, surtout ne rentre pas dans... Sa mère était très malade. Il s'en est beaucoup occupé, d'ailleurs. Ça, c'est une des caractéristiques d'André. C'est qu'il était très, très dévoué à tout ce qu'il aimait. Et il me donne donc rendez-vous dans la rue et je le vois descendre en, on appelle ça un pyjama, vous savez, c'est court, avec des éléphants roses, et regardant les photos de Saturne sous un réverbère, excité comme un coucou pour me dire qu'il avait les plus belles photos de Saturne et qu'il fallait absolument les passer dans l'émission de télé. Non, mais c'est des souvenirs... extraordinaire.
Bonjour Odile Jacob.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes l'éditrice des livres d'André Braik. En 99, vous avez publié son premier ouvrage, Enfant du Soleil, sur l'histoire de nos origines. Vous étiez auprès d'André Braik ces derniers jours. C'est quelqu'un, on l'a tous constaté, qui a gardé sa force et sa joie de vivre jusqu'au bout. Hein.
Tout à fait. C'était un homme exceptionnel, extraordinaire, éblouissant, à la pensée absolument fulgurante. C'était un homme étonnant, d'une gaieté, d'une joie de vivre immense. C'était un esprit très original, un personnage hors du commun, un homme tellement attachant, bienveillant, charmant. Un idéaliste, un vrai pur.
Oui, c'est son énergie mentale, justement, qui était très impressionnante, Odile Jacob.
Jusqu'à la fin de sa vie, il était dans les projets nouveaux. Il avait une vivacité intellectuelle, une originalité de pensée exceptionnelle, un tonus et un goût de la vie.
Sébastien Charnoz, au début des années 2000, donc, vous avez travaillé avec André Braille sur le projet Cassini. Alors, c'est une sonde spatiale qui étudie la planète Saturne et plusieurs de ses satellites. Comment ça s'est passé, justement, cette collaboration? Alors là, vous êtes passé vraiment de l'élève au collaborateur.
Oui, parce que donc André, très gentiment, moi j'ai fini ma thèse en l'an 2000. Et donc la sonde Cassini avait décollé de la Terre en 97 et elle devait arriver autour de Saturne en 2004, donc après 7 ans de voyage. Donc au milieu de cette période de voyage à travers le système solaire, André m'a dit, bah écoute, viens avec moi, je suis dans ce projet international, en plus je fais partie de l'équipe d'imagerie, donc c'est-à-dire l'équipe qui va avoir en priorité toutes les images. Il m'a dit, bah écoute, j'ai besoin d'un collaborateur pour travailler à l'intérieur et pour participer à l'exploitation scientifique des données. Et donc comme ça, il m'a emmené avec lui aux États-Unis. Et donc on arrive dans le Colorado et j'ai commencé à travailler avec les équipes américaines. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, très naturellement, j'ai fait ma vie ma vie scientifique dans cet environnement. Et au sein de l'équipe d'imagerie, c'était extraordinaire de travailler avec André, parce qu'André était toujours débordant d'imagination. On découvrait les images quasiment en temps réel, au fur et à mesure qu'elles nous arrivaient. On a résolu des problèmes de 20 ans en 10 minutes d'imagerie, tout simplement parce que c'était la première fois qu'on avait des images à cette résolution. Et avec André, comme ça, pendant 10 ans, je crois que notre dernier papier ensemble, on l'a publié en 2012, donc ça remonte à 4 ans. On a fait un bon binôme. C'était vraiment une très belle période de ma vie. On a fait un bon binôme au sein de la mission Cassini. On s'entraidait. Moi, je faisais les trucs peut-être un peu plus dans le cambouis. On échangeait plein d'idées scientifiques. On écrivait des articles. Lui faisait plus de politique. Et ça a été une très belle aventure scientifique avec lui à travers le monde, parce qu'on n'avait pas, on se retrouvait aux États-Unis, au Japon, en France, en Europe, etc.
Et au milieu de tout ça, Odile Jacob, pour un éditeur, une éditrice comme vous, est-ce que c'était facile d'arriver à obtenir les manuscrits d'André Braille, lui qui vivait à 400 évidemment, à l'heure?
Évidemment, sa notion du temps était très différente de la nôtre. C'était plutôt le temps de la nuit que celui du jour. Les astronomes travaillent plutôt la nuit que le jour. Mais c'était un homme d'une telle richesse d'idées, d'une telle générosité intellectuelle. C'était évidemment un perfectionniste très 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 exigeant envers lui-même, qui a beaucoup de mal à mettre le mot fin, F-I-N. Mais il a fait une œuvre très importante. Il a publié 5 livres. Il était en train d'en préparer des nouveaux. Il a donc publié il y a quelques mois son dernier livre en 2015, « Terre d'ailleurs, sommes-nous seuls dans l'univers ?». Ce livre raconte la quête des nouvelles terres et d'une éventuelle vie extraterrestre, et ainsi que la détection du système planétaire proche et des territoires habitables qui gravitent près de nous. C'est un livre absolument inouï, qui est une nouvelle discipline, ce qu'on appelle l'astrobiologie, qui est un mélange d'astronomie et de biologie. C'était un homme extraordinaire.
Est-ce que vous deviez le suivre de près en tant qu'éditrice, justement, lui qui avait une pensée si rapide?
De très très près. C'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup, beaucoup ensemble. Il était extraordinairement minutieux, jusqu'au dernier détail. Ses livres étaient très illustrés. Il y avait donc un texte tout à fait original, scientifique, qui était accompagné de magnifiques illustrations qu'il trouvait lui-même, qu'il fabriquait lui-même. Et il regardait chaque détail avec un sens du perfectionnisme. Tout était regardé dans le moindre détail de tout. Et donc, jusqu'à la dernière seconde où il acceptait de laisser son manuscrit, on ne pouvait pas penser qu'il avait achevé un livre. C'était un travail considérable. Il me donnait par exemple rendez-vous à 5h de l'après-midi, il arrivait à 9h du soir, on en terminait à 5h du matin. Donc il fallait être continuellement avec lui, lui parler, le rassurer et l'aider à finir.
Ouais. Frédéric Durillon, on peut saluer, Sébastien Charnoz, on peut saluer Frédéric Durillon, qui justement était évoqué indirectement par Odile Jacob, puisqu'il est là en régie. Vous nous dites qui c'est en un mot?
Frédéric Durillon, ici présent, c'est un ami de longue date, c'est un graphiste. qui a fait beaucoup d'illustrations scientifiques pour le CEA, le CNRS, et qui a en particulier fait les illustrations de scientifiques de plusieurs de ses derniers livres. Et donc, il est avec nous ici en régie, et lui aussi un souvenir extrêmement ému d'André Braïk.
Alors, dans quelques minutes, évidemment, on va entendre longuement la voix d'André Braïk, extrait d'entretien qu'il nous avait accordé ici à la Tête au Carré. Odile Jacob, en 2012, vous avez publié La science, une ambition pour la France. Ce sera d'ailleurs la première partie de ces entretiens autour de ce livre dans lequel André Braïk lançait un appel en direction de tous, les citoyens comme les politiques. C'était juste après l'élection de François Hollande. On l'avait reçu à ce moment-là. C'était un livre vraiment à part dans son parcours.
Oui, tout à fait à part parce qu'il avait une telle ambition pour la science et une telle ambition pour la France qu'il insistait sur l'importance de la recherche et de l'éducation pour un pays comme la France. Il expliquait que si un pays consacre pas un budget considérable et pour l'éducation et pour la recherche, ça ne peut pas être un grand pays compétitif avec toutes les grandes nations.
Merci beaucoup Odile Jacob pour votre témoignage dans cette Tête au Carré. On va se retrouver dans quelques minutes. Marie-Odile Monchicourt, Philippe Hénarejos, Sébastien Charnoz, si vous avez la possibilité de rester avec nous, vous pourrez bien sûr témoigner au fil de ce que nous entendrons. Et puis bien sûr, j'attends vos messages, aussi vos témoignages pour André Braïk. Vous pouvez nous rejoindre sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Et Paolo Conte, bien sûr.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Hommage à l'astrophysicien André Braïk, disparu donc hier à l'âge de 73 ans. Marie-Odile Monchicourt, Philippe Hénarejos sont à mes côtés. Également Sébastien Charnoz, donc ancien élève d'André Braïk, avec d'ailleurs des hommages qui arrivent de partout, et même d'Amérique d'ailleurs, Sébastien Charnoz. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, cette nuit, suite au décès d'André, ça me paraissait normal de prévenir ses collègues américains, parce qu'André avait une relation très spéciale avec les États-Unis. Il a fait sa carrière au sein de Voyager, il a continué ses carrières avec Cassini. Il a des relations très fortes avec des professeurs à Caltech, des professeurs à Cornell. Mmh. Et donc cette nuit, tout simplement, j'ai envoyé 2-3 mails en annonçant la triste nouvelle. Et donc tout ce matin, en me réveillant, j'ai eu la joie de voir ma boîte mail pleine de messages de ses collègues et au sein de la mission Cassini et ailleurs, témoignant de leurs souvenirs d'André, de sa gratitude. Et donc là, même, enfin, je trouve que le projet fait les choses bien. On va même organiser une session spéciale à mémoire d'André Braik à l'Agence spatiale européenne en novembre dans le cadre de Cassini. Quoi.
Ouais. Et on sent une émotion vraiment partagée, c'est-à-dire autant du côté des scientifiques, Philippe Hénarejos, que du public qui a vraiment envoyé beaucoup de messages aussi pour dire sa tristesse.
C'est vraiment très fort. Et il y a beaucoup de gens qui réagissent sur les réseaux sociaux. Mais c'est naturel parce que comme c'était un passionné qui aimait ce qu'il faisait et qu'il aimait le partager surtout, aussi bien dans les médias avec nous les journalistes que dans les conférences qu'il pouvait donner, il transmettait quand même quelque chose, une véritable passion. Ce que je disais tout à l'heure à la fin de ce cours, vous mettez n'importe qui là qui regarde un peu sur le bord, il recrute des astrophysiciens tout de suite. C'est quelqu'un qui est très attachant. Alors on emploie beaucoup le mot générosité aujourd'hui, mais dans son cas il s'applique particulièrement parce que il donnait vraiment de sa personne pour les conférences. Vous saviez à quelle heure elles démarraient, pour tout qu'il soit à l'heure, mais vous ne saviez jamais à quelle heure elles finissaient. Pour les rencontres du ciel et de l'espace, par exemple, qui ont lieu tous les deux ans, en novembre à la Villette, qui sont organisées par ciel et l'espace, on le met en dernier dans la programmation, parce que après, c'est les vigiles qui virent les gens de la salle à 11h du soir, parce qu'il faut s'arrêter à un moment donné, et il continuera sur le trottoir dehors, même s'il pleut.
Eh bien, écoutons-le, André Braik. En 2012, donc année de l'élection de François Hollande, il publiait La Science, une ambition pour la France, donc chez Odile Jacob, et il était venu nous en parler le 5 juin 2012. Alors ce livre, La Science, une ambition pour la France, paraît aux éditions Odile Jacob. Alors c'est quoi ? C'est un hymne à l'amour ? C'est un cri d'alarme pour remettre la science au cœur du débat ?
Tout démarre dans un dîner que j'avais avec Odile Jacob, qui, vous le savez, développe la science et un rôle d'éditeur remarquable. Et au cours de ce dîner, en plaisantant, j'explique que nous sommes au mois de janvier et j'explique que j'ai pas le temps de me présenter aux élections présidentielles parce que j'ai trop de travail, mais que j'y songe éventuellement pour 2017 ou 2022, mais qu'en attendant, j'ai un programme. Et mon programme réside en trois priorités absolues, à l'exclusion de tout autre. Mes trois priorités sont la recherche, la culture et l'éducation. Et j'en suis profondément persuadé parce que chacun sait que parmi les problèmes de société, la violence par exemple. La violence n'est pas fille de la pauvreté. Tout le monde le sait, la violence est fille de l'inculture. Le chômage, le chômage il se résout pas en fabriquant des chemises à bas coût. Il se résout en initiative, en faisant des choses nouvelles. Et donc je suis persuadé que ce trio, en quelque sorte, recherche, éducation et culture, c'est ça l'avenir. Si l'Europe est un petit peu en avance aujourd'hui sur les Chinois, les Indiens, les Arabes, c'est pas qu'on est plus intelligent. C'est qu'à la renaissance scientifique, les Tycho Brahe, les Kepler, les Galilées, les Newton ont lancé un mouvement auquel succédait le siècle des Lumières, le monde industriel et ce que nous connaissons aujourd'hui. Autrement dit, je rêve d'un chef d'État qui tombe amoureux de la science et qui fasse une véritable, comment dirais-je, un coup de cœur, qui lance la science, qui est posée absente de notre société. Certains candidats, après tout, n'avaient pas de programme, et donc moi je ne suis pas candidat, mais j'ai un programme. Et là, je lance un cri d'amour en disant ne manquons pas cette occasion, et si nous voulons profondément résoudre tous les problèmes dont on parle chaque jour, c'est par là que ça passe. C'est-à-dire que la science ne peut pas peut-être tout résoudre, mais sans science, nous sommes morts. Et alors que notre société, notre vie de tous les jours berce dans le monde de la science. Je veux dire, vous vous levez le matin, vous téléphonez, vous prenez un taxi, vous prenez l'avion, vous allez à l'hôpital, vous communiquez avec vos collègues. Eh bien, tout ce que vous faites est résultat de découvertes faites dans les 10 ou 20 ans qui précèdent. On ne savait pas faire ce qu'on utilise aujourd'hui il y a seulement 10 ou 20 ans. Or, nous sommes baignés par la science et la science, on l'ignore. Pourquoi on ne remettrait pas la science au cœur ? Et la science est aussi la culture scientifique. Et je crois que cette culture pourrait être beaucoup plus présente et dans les journaux et dans la radio-télévision. Et vous savez que je rêve d'émissions de télévision à 8h30 le soir, ce chaîne généraliste. On passionnerait les gens.
Vous avez vécu l'expérience. Bon, évidemment, une époque où il n'y avait que 3 chaînes de télévision.
Ça fait un noir et blanc.
Vous le racontez dans le livre. C'est-à-dire qu'on vous propose de faire une émission de télé à 20h30 le soir. Et vous avez en face de vous Jacqueline Maillot au théâtre et Jean-Paul Belmondo.
Voilà, c'est-à-dire, Pierre Sabag et Robert Clark, qui étaient des gens connus de la télévision à l'époque, m'invitent à déjeuner. Le déjeuner est sympathique. Ils m'emmènent au bout de Chaumont. Ils m'assoient sur un tabouret avec pour seul décor un drap de lit, un drap blanc. Et sur ce, ils me posent des questions. Ça dure une heure. Je réponds et l'émission est diffusée à 20h30 sur la 3e chaîne.
Et vous racontez quoi alors ? C'est quoi le
sujet ? Ils me posent des questions sur les comètes. Je dis c'est fantastique, c'est merveilleux. Les gens étaient éblouis par ça au Moyen-Âge et puis ne manquaient pas d'observer ces phénomènes. Et puis c'est de la matière première qui a formé la Terre plus tard. Enfin, c'est comme ça que des océans sont peut-être apparus, etc. Et donc je raconte ça. Et à 8h30 ce soir-là, le programme était était le suivant. 20h30, nous avions Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio sur la première chaîne. Nous avions sur la seconde chaîne, 20h30, Jacqueline Maillan dans une pièce de théâtre. Et à 20h30, et ben, je racontais des choses. Et les trois émissions ont eu à peu près le même taux d'écoute. Et nous avons été battus de justesse par Belmondo, mais ça a coûté beaucoup plus cher. Nous avons battu Jacqueline Maillan. Et cette série d'émissions a duré pendant une dizaine de fois. Ils ont invité Yves Coppens, Hubert Riz, enfin, de collègues qui sont bien sympathiques et qui parlent de la science avec amour. Et puis, ils l'ont arrêté après. Quel dommage. Et je pense que les gens seraient passionnés par la science, surtout si on la présente de manière sympathique, de manière ludique. C'est mieux qu'un roman policier.
Quel est le pays, pour vous, André Braic, aujourd'hui, qui symbolise le mieux vos idéaux, hein, au fond, ce qu'on trouve dans cet ouvrage?
Je crois qu'aucun pays actuellement ne représente ça. Par contre, il y a des efforts qui sont faits. Et j'admire les efforts qui sont faits aux États-Unis. Mais en même temps, dans ce pays, dites-vous qu'il y a des obscurantistes profonds. Il y a des fondamentalistes religieux qui voudraient que la Terre est 6 000 ans, qui ne veulent pas qu'on apprenne Darwin aux étudiants. Et donc, il y a côte à côte un progrès scientifique fantastique et un obscurantisme profond, avec beaucoup d'intolérance de la part des obscurantistes. La Chine aussi fait un effort colossal. La Chine, Mao Zedong avait envoyé les intellectuels au champ. Donc, la majorité sont morts, simplement, de faim et de des conditions épouvantables. Ils ont repris la main, mais en même temps, les conditions en Chine, c'est pas vraiment la liberté ni la démocratie. Donc, il y a des efforts qui sont faits. L'Europe et la France ont eu la volonté de faire des choses en science, mais hélas, ceci a été mis dans les mains de gens honorables, qui ont fait du droit, qui ont fait l'ENA, qui ont fait HEC, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait des écoles très honorables, mais qui ne savent pas ce que c'est que la science, et qui ont transformé les chercheurs en demandeurs de crédit. Et je compare ça à la situation, imaginez que la SNCF recrute des conducteurs de locomotives, mais oublie d'acheter des locomotives. Ouais. Et donc les conducteurs passent leur temps à faire des dossiers pour acheter des locomotives.
Donc ça, vous dites bien, faut arrêter, quoi.
Complètement.
La paperasse, effectivement.
Complètement. Je veux dire, l'équipe de France de football ou de handball, un jour, était championne du monde. Les joueurs ont rempli des études d'excellence, avec le prix du gazon hors TVA et le salaire du jardinier du stade, ou du gardien du stade. Ils sont entraînés. Et puis on les a sélectionnés. Ah, mais oui, mais si on sélectionne, c'est pas démocratique. Peut-être. Mais la science est nécessaire à la démocratie, mais la science elle-même n'est pas démocratique. Aucune des codes scientifiques n'a été obtenue à la suite d'un vote de la majorité. Une code scientifique, en général, c'est contre la majorité. C'est une idée nouvelle qui choque tout le monde. Il faut comprendre ça. Et par contre, pour la démocratie, on a besoin de science. Et souvent, certains confondent démocratie et médiocratie, et d'autres confondent égalité et égalitarisme. Et là aussi, attention aux mots qu'on utilise dans le mauvais sens. Et donc, je voudrais que chaque individu soit au bon endroit, avec la bonne éducation. Cette éducation soit toute la vie. C'est pas un truc qu'on fait à 20 ans, puis après, on n'apprend plus rien jusqu'à 70 ans. Et je crois que là, il faut repenser complètement les choses. Et en plus, on ferait des économies. Si on savait ce qu'on économiserait en supprimant tous les bureaucrates, eh ben les crédits de la recherche bondiraient. Il faut reprendre les choses complètement. Ça, on le fera pas en 6 mois. C'est une œuvre de longue haleine. Mais l'astronome que je suis n'est pas à quelques dizaines d'années près, n'est même pas à quelques siècles près.
Oui. À quoi vous carburez, André Braic? Je vous observe nous parler avec cette vivacité. Ça va très très vite dans votre tête. Où est-ce que vous puisez toute cette énergie? Cette joie renouvelée.
Parce à que l'instant dites... présent, je vous parle, ma nuit était un peu courte parce que j'avais beaucoup de travail, donc je me sens un peu endormi.
Vous êtes couché à 8h, oui, en plus vous êtes endormi là, au moment où vous nous parlez, donc on imagine ce que ça peut représenter.
Mais en quelque sorte, écoutez, moi j'ai une chance extraordinaire. La majorité de mes ancêtres, sur les 3-4 siècles qui précèdent, ont été mineurs de fond. Ils sont tous morts de la silicose à 50 ans, parce que le charbon, on sait, ça fait beaucoup plus de victimes que d'autres formes d'énergie. Donc je serais né 50 ou 100 ans plus tôt, il y a longtemps que je serais mort, en quelque sorte. Donc j'ai une chance extraordinaire. Non seulement... je suis profond de la mine. Non seulement je fais une technique qui me passionne, mais en plus on me paye la fin du mois. Et en plus on me donne un salaire astronomique. Alors, j'aurais tort d'être tristounet. Si vous faites des études scientifiques, vous n'êtes pas au chômage. Tous nos étudiants ont un métier correspondant à leur qualification bac plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc. Alors qu'il y a d'autres disciplines ou d'autres domaines qui forment des chômeurs. Donc attention à ça. Non seulement la science est passionnante, on va manquer d'ingénieurs en France dans un futur très proche. On va manquer de médecins en France dans un futur très proche. Par contre, les managers, les financiers, les bureaucrates, etc., qui nous provoquent des crises, là on pourrait changer un petit peu les choses.
Il faudra augmenter les salaires quand même, hein, des scientifiques.
Bien entendu.
Vous savez que
la France dépense beaucoup d'argent pour former des jeunes gratuitement, et ça c'est bien. Et ces jeunes formés gratuitement, si quand ils sont à bac plus 12, ils ont fait l'école polytechnique, ils ont fait l'école normale, ils ont passé une thèse, ils sont à bac plus 12, ils sont candidats à un poste, il y a 20 candidats, il y a un seul poste. Vous voyez la compétition. Ils sont pris, ils ont un peu plus que le SMIC. Ils peuvent pas habiter à Paris ni de leur famille. Résultat, ils vont aux États-Unis, ils vont en Chine, ils vont à différents endroits où ils sont payés 4 à 5 fois plus. Autrement dit, la France finance la formation des jeunes qui profitent aux autres pays. Alors c'est généreux de notre part, mais pourquoi on ne profitera pas nous-mêmes des gens qu'on forme nous-mêmes? Et en plus, c'est marginal comme somme pour la République, c'est rien du tout. Et là aussi, c'est la place de la science dans la société qui est ignorée. Et là aussi, on devrait faire un effort énorme qui ne représentera rien.
André Braic, quel est votre quotidien d'astrophysicien? Qu'est-ce que vous regardez? Parce que c'est un métier quand même.
Une grande variété, on fait 4 métiers.
Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Vous avez des ordinateurs, des photos, vous mettez votre œil dans des télescopes?
Alors moi j'aime bien le stylo et le papier blanc, c'est comme ça que j'ai appris, ouais. On peut réfléchir. Alors j'utilise l'ordinateur comme tout. tout le monde. Ouais. Je pars en mission pour observer dans un observatoire. Je reçois par informatique les données des satellites. Actuellement, je suis à la sonde Cassini qui tourne autour de Saturne. Mm-hmm. Nous avons démarré le projet en 1980, nous le finissons en 2017. Vous voyez, pratiquement 40 ans de travail sur ce projet. Donc, entre l'enseignement, la recherche, l'administration, il faut en faire un petit peu tout de même, la vulgarisation, la rencontre avec les étudiants, le travail sur le terrain, c'est passionnant. Et c'est pour ça que je milite actuellement pour la suppression de la retraite. Et donc, j'ai fait une manifestation, j'étais tout seul dans la rue. Et je rajoute que si on avait mis Victor Hugo à la retraite à 60 ans, on aurait perdu beaucoup. Autrement dit, ma solution, c'est on prend la retraite quand on en a envie. Quand on a assez, ben on s'arrête. Et quand on a envie, continue, on peut continuer. Et là aussi, la France, elle fait trop d'uniformité. Mettons de la diversité, c'est la diversité qui connaîtra la richesse.
Non, mais il faut vous proposer un poste de ministre, parce que je vous parle d'astrophysique et tout de suite, hop, vous bifurquez sur la politique.
Non, parce que ministre, ça dure un an ou deux. Ouais. Astronome, ça dure toute la vie.
Voilà, il avait un vrai programme.
Qu'est-ce qui va manquer?
Il secouait vraiment le cocotier. Hein. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de très attentif aussi à l'état de la recherche. On l'a bien entendu dans cet extrait.
Oui, mais alors, il se disait toujours, je suis un enfant de la République, j'ai eu la chance de faire des études, je veux le rendre à tout le monde. Il le répétait, mais constamment. C'est-à-dire cette espèce de reconnaissance d'avoir eu le droit de faire des études, alors qu'effectivement, comme il le dit dans cette interview, ses ancêtres étaient des mineurs, quoi. Mmh.
Philippe Hénarejo.
Ce qui lui donnait cette dimension aussi, c'est qu'il n'était pas simplement un chercheur, un savant tout seul dans son labo, dans sa tour d'ivoire, comme on peut l'imaginer. C'était un savant, un citoyen, c'était quelqu'un qui était vraiment en prise avec les problèmes de la société. Et comme il le dit, enfin, il avait un vrai programme et qui était fondé intellectuellement.
Sébastien Charnoz.
Oui, effectivement, c'est ce qui le caractérise. Je rebondis sur ce que dit Philippe, c'est que vraiment c'est un chercheur qui était très attentif à l'avenir de ses étudiants et très attentif à l'évolution de la société. Et d'autant plus qu'il avait cette carrière internationale, il avait une vision un petit peu transatlantique du problème et il voyait très bien effectivement comment les jeunes chercheurs sont traités complètement différemment outre-Atlantique et il le regrettait beaucoup. Quoi.
Allez, on va le retrouver dans un instant avec un autre moment très important de l'histoire de l'astronomie qu'on a vécu tous ensemble, c'est l'atterrissage de Philae sur la comète Chury. C'était en novembre 2014 et on était à la Cité des Sciences. Philippe, on écoutera la voix de André Braik.
Lover, bonheur, des mouvements délicats, juste sous mes doigts si fragiles, qu'elle seule peut voir et sentir. Je l'aperçois tout là-bas. Moi, je fais ce qu'elle veut. Je comprends pas vraiment. Elle veut le kung-fu d'elle. Dangereuse. Qui attend. 13 heures. Trésor. Des ombres, elle. Qui s'envole, je parcours presque ses envies. Je l'aperçois tout là-bas. Moi, je fais ce qu'elle veut. Je comprends pas vraiment. Elle veut. De l'autre côté de la danse.
dangereuse, la voix de Christophe sur France Inter. Aujourd'hui donc, ce lundi 16 mai 2016, hommage à André Braïc, avec à mes côtés Marie-Odile Monchicourt, Philippe Hénarejos et puis Sébastien Charnoz, astrophysicien. J'aimerais vous lire cette lettre que notre collaboratrice Lucie Sarfati a retrouvée dans son ordinateur ce matin en préparant l'émission. C'était en 2009 et c'était un mail que André Braïc lui envoyait suite à une demande justement d'interview pour venir à la Tête au Carré. Alors voilà ce qu'il écrivait. Je rentre chez moi à l'instant après une nuit blanche et sans avoir encore déjeuné ni dîné. Je vous avoue que je serre les dents, que j'ai l'impression d'être un vieillard. Je devrais démarrer à nouveau dans quelques heures pour des rendez-vous, des cours, des urgences et prendre un train en courant demain soir pour aller faire une conférence que je n'ai même pas le temps de préparer et où je ne pourrai pas dire au public que j'ai sommeil. Comme je vous l'ai dit dans mon précédent message, je sortirai de cette période de quelques jours totalement fous la semaine prochaine. Le seul moment où je devrais encore avoir quelques heures tranquilles est dans la nuit de lundi à mardi où je serai dans une chambre d'hôtel à Strasbourg entre 2h du matin et 7h du matin. Je n'ose pas vous proposer de m'appeler à cette heure-là, mais si vous êtes vraiment pressé, je peux encore rogner sur mes temps de sommeil et d'alimentation pour vous consacrer du temps mercredi prochain, 18h dans l'après-midi ou la soirée, avec mes meilleurs sentiments, André Braïc.
Là, tu lui as répondu, non, surtout ne vous dérangez pas.
Voilà, c'était ce type de message. Je pense que nous avons tous reçu autour de cette table. Cet événement au mois de novembre 2014, Philippe Hénarejos, évidemment, tout le monde s'en souvient, c'est l'atterrissage de Philae sur la comète Chury. On était à la Cité des Sciences pour le vivre.
Pour l'émission, oui.
Voilà. Et André Braïc était avec nous, évidemment. Je vous propose de revivre quelques minutes de ce moment d'histoire de l'astronomie.
D'habitude, les journaux font des titres sur des footballeurs qui tirent des coups francs. Ils ne réussissent pas toujours. Eh bien, nous, on tire un coup franc parce qu'il n'y a pas de moteur et on réussit souvent. Et pourtant, on est moins payé que les footballeurs, mais ce qu'on fait est peut-être plus intéressant.
Oui, mais on ne sait pas si on va réussir encore. Hein.
De toute manière, on a déjà réussi.
Il y a quand même beaucoup d'inconnus sur
l'atterrissage. On a déjà réussi et on va en fin de partie tirer un coup franc. Et si en plus on tire le coup franc pendant les prolongations, ça sera extraordinaire. Ouais. Et si jamais ça ne marchait pas complètement, on y retournera. Parce que je vous rappelle que la science, c'est le moyen de lutter contre le chômage et la violence. Ce que nous vivons aujourd'hui est extraordinaire pour notre futur. Alors continuons.
Quel fantastique bond en avant ou en quelques siècles, nous dit Jean-Paul sur franceinter.fr. On est passé de la peur d'apparition des comètes, de la méconnaissance de celle-ci, à la pose de Rosetta sur une comète. C'est vrai qu'il y a tout un imaginaire assez négatif autour de la comète, André Braïc.
Et oui, parce que certains ont réécrit l'histoire. À chaque fois qu'un événement se produisait, ou bien une catastrophe, ou bien la naissance du fils d'un empereur, on l'associe à un passage de comète. Et certains disaient que c'est un mauvais présage, d'autres un bon présage. Et c'est l'époque, disons, un petit peu obscurantiste, on ne savait pas ce que c'était. Et tout de même, il y a environ 2000 ans, des gens comme Leucippe, Eurydice, Démocrite avaient compris que c'était un phénomène naturel, que toute cause produisait un effet et qu'une approche rationnelle du phénomène devait permettre de comprendre. Et ils disaient, dans les siècles futurs, nous comprendrons de quoi il s'agit. Eh bien, cette prédiction d'il y a 2000 ans est en train aujourd'hui de se réaliser. Ouais. C'est pas la peine de faire appel à je ne sais quel loup-garou. Simplement, ces comètes, c'est un petit peu ces cailloux à partir desquels nous sommes nés et c'est une merveilleuse aventure.
Comment nommer ce contact ? Atterrissage ou accométissage, André Braïc ?
Ah non,
vous qui aimez les mots.
Quand on atterrit, on ne se pose pas sur la planète Terre, on se pose sur le sol. Donc qu'on aille sur la Lune, sur Mars, sur Saturne, enfin sur un satellite de Saturne ou une comète, c'est atterrissage.
Oui, mais on a l'uni aussi, donc on pourrait...
Mais ce n'est pas forcément le bon terme.
Donc on pourrait accométir.
ça ne
vous plaît pas.
Mais c'est moins bien.
Ça ne vous plaît pas.
Je propose qu'on parle français,
bon.
C'est mieux.
André Braïc, ce courriel de Kayagas avec une pesanteur 100 000 fois inférieure à celle que nous connaissons sur Terre. Aucun risque que la sonde s'envole vu qu'elle ne pèse plus que quelques grammes.
Oui, mais si par hasard le sol était extrêmement rigide et si nous rebondissions trop fortement... Eh bien, on a traité très facilement la vitesse d'évasion. Donc, il faut à la fois y aller avec douceur. C'est pas comme... Vous savez, quand les Américains ont rencontré une comète, ils ont frappé, boum. Les Européens, eux, ils caressent. Donc, nous caressons la comète, ce qui, je trouve, est une approche plus sympathique, surtout qu'on approche une dame comme la comète.
Oui.
Eh bien, on la caresse doucement. On ne veut pas s'en éloigner et rebondir. On ne veut pas pénétrer à l'intérieur trop rapidement, sinon on n'aura plus rien. On veut rester dessus et observer ce qui se passe sur chaque milligramme de sa peau.
C'est d'un érotisme, Rosetta. C'est
pas
terrible.
C'est une caresse, c'est pas érotique.
Pas du tout. C'est érotique, une caresse.
À tous de Léo, prêt pour le décompte final.
Mission Rosetta.
10, 9,
on se pose sur 8, la comète.
This is a rendez-vous with a comet.
La tête au carré, 5, au cœur de l'événement.
Now, ladies and gentlemen, we're approaching 2, the moment of 1, truth.
Sur France Inter.
Top.
Allez, on est à 2 heures de l'atterrissage. Et puisque nous sommes mercredi, qu'il y a beaucoup d'enfants dans la salle aujourd'hui, ici à la Cité des Sciences, j'aimerais leur donner la parole. Il y a une petite fille qui est là devant nous. Bonjour.
Bonjour.
Comment t'appelles-tu ?
Amélie.
Bonjour Amélie, on écoute ta question. Vas-y, c'est à toi.
Quand est-ce que la comète Chury passera proche du Soleil ?
Alors, qui veut répondre ? André Braïc ?
Cette comète a une orbite qui est en gros une ellipse. Elle se rapproche actuellement du Soleil. Je crois qu'elle l'atteint ce mois de décembre 2015, mois d'août plutôt 2015, à peu près. Et ce qui se passe, c'est que cette comète qui est faite d'éléments très froids, qui en fait a été formée très loin, au-delà de Neptune, et par un jeu de perturbations avec les planètes, s'est rapprochée, comment dirais-je, du Soleil. Quand elle est très près du Soleil, elle dégaze avec une atmosphère autour, une queue, etc. Quand elle est plus loin, elle garde les éléments. Et c'est grâce à ces éléments qui partent qu'on a une idée de ce dont elle est composée. Et avoir une idée de ce qu'elle est composée, ben, c'est reconstituer notre histoire. Et c'est toute cette belle histoire qu'on fait. C'est connaître notre passé et préparer notre futur.
Nous avons une question dans le public avec un auditeur, je crois, qui a le micro.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est Frédéric. C'est juste un petit détail. Je voudrais seulement savoir si la masse de Philae pourrait modifier tant soit peu la trajectoire de la comète.
André Braïc.
Extrêmement peu. L'objet est tout petit, il a 4 km de dimension. Nous ignorons pour l'instant sa densité, mais on pense que c'est quelque chose d'assez ténu. C'est probablement pas du granit, évidemment. Et donc, sa masse est extrêmement faible. Et de toute manière, la trajectoire qui a été prévue de manière automatique tient compte de la densité estimée, de la masse estimée. Donc, il n'y a pas de modification majeure à attendre.
Philippe Hénaré-Jos.
Oui, en fait, la densité, on la connaît. C'est 0,4. Donc, c'est
oui,
une densité.
Quand je ne la connais pas, il oui. Y a une barre d'erreur.
Il y a une barre d'erreur. Mais c'est quelque chose de très poreux. Alors, effectivement, il pèse 100 kilos, Philae, c'est pas grand-chose. On serait quand même une grosse surprise s'il cassait un bout de la comète. On ne croit pas que ça va arriver.
Quand on passe à côté d'un monsieur qui fait 100 kilos, on n'est pas immédiatement dévié. Quoi. On peut passer en continuant sa route.
Ouais. Allez, Joël Deronet nous a rejoint, parce qu'il y a beaucoup de monde ici à la Cité des Sciences. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, on espère, vous qui êtes amateur de surf, que Philae ne va pas justement surfer sur la comète et repartir d'un bond sans pouvoir la rattraper, mais que véritablement le robot va s'ancrer sur cette comète. Ça vous fascine. Vous aussi, je disais, on a tous des yeux d'enfant aujourd'hui, mais c'est le cas, vraiment.
Alors, je suis surtout passionné par les questions concernant l'origine de la vie. J'ai écrit des livres dessus. Et effectivement, une des grandes surprises des 30 dernières années, ça a été de découvrir des molécules organiques dans l'espace, des molécules assez complexes, finalement. On pensait qu'il y avait des molécules très simples. Il y a des acétones, des aldéhydes, des alcools. Ça pourrait être les briques des protéines, des acides aminés ou les briques des acides nucléiques. On a su les fabriquer au laboratoire en dehors du vivant. C'était les fameuses expériences qui datent maintenant d'il y a beaucoup de temps de Stanley Miller, mais ensuite ça a été refait dans de nombreux laboratoires. Donc si on trouve ces molécules organiques sur la comète, ça voudrait dire que les molécules sont très abondantes dans notre système solaire et même ailleurs, et donc ça repose la question de l'origine de la vie dans l'univers. Ça ne veut pas dire que les comètes ont ensemencé la Terre. Ça, c'est une autre théorie.
Oui, mais enfin, c'est quand même une hypothèse, hypothèse sérieuse.
Au tout début de la formation du système solaire, les planètes géantes que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont formées avant les autres parce qu'elles ont ramassé tout l'hydrogène et l'hélium qui n'existaient plus au niveau de la Terre. Et avec ça, il y a un phénomène de résonance. La résonance, c'est la même chose que quand vous poussez votre cousine sur une balançoire. Si vous la poussez avec la bonne cadence, la balançoire prend une amplitude infinie, la cousine se met à hurler. Eh bien, les planètes se mettent à se perturber mutuellement. Ça met une pagaille dans tous ces planétoïdes, ces comètes, ces astéroïdes énormes. Et la Terre, 800 millions d'années après qu'elle soit apparue, a été bombardée de manière massive par des comètes, des astéroïdes. Nous avons la trace sur la Lune et sur Terre, évidemment, il y a eu le même bombardement. Et la grande question qui se pose, est-ce que c'est ça qui nous a apporté la matière première qui donne les océans et la vie, ou bien est-ce que c'est ça qui a fracturé la croûte terrestre qui a permis aux éléments de sortir? À mon avis, c'est les deux. Un petit peu de l'intérieur, un petit peu de l'extérieur, et ça donne quelque chose d'aussi bien que votre émission sur France Inter.
Voilà, et c'est pour ça qu'on vous aime, André Braïc, c'est quand vous nous parlez de notre cousine sur sa balançoire. Voilà, ça nous rappelle plein de souvenirs.
Ça me rappelle à moi beaucoup de souvenirs agréables.
Voilà, et le sens de la formule.
Il est génial,
il y avait
était
tout,
génial.
Là. Voilà, c'était pour cette journée exceptionnelle, hein, Philippe Hénaré-Jos. Hein.
Eh oui.
12 novembre 2014. Alors c'est vrai, Sébastien Charnos, que André Baric aimait beaucoup les enfants. On entendait une petite fille là, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il consacrait beaucoup de temps aussi à la transmission de la science auprès des plus jeunes.
Oui, tout à fait. C'est André passait beaucoup de temps. Il intervenait dans les lycées, dans les collèges. Il intervenait à la radio dans l'émission qui s'appelait Les Petits Bateaux.
Qui s'appelle toujours d'ailleurs.
Qui s'appelle toujours Les Petits Bateaux. Donc il passait beaucoup de temps. Il était très disponible pour les enfants parce que c'était. Ben, bon, je pense que c'est ce qu'on évoque tous, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait une vision du rôle de la science comme source de liberté et source, comment dire, et source de l'émancipation humaine. Et il voyait justement dans les enfants et dans les étudiants le futur de notre société. Et c'est vraiment quelqu'un qui a ce qui s'est vraiment dévoué à ça à travers son outil qui était la science.
Philippe,
mais finalement, c'était quelqu'un de très cohérent dans ce qu'il disait et dans ce qu'il faisait. Cette action montrait que vraiment, il portait la science comme un moyen, en tout cas, très intéressant d'appréhender le monde et puis après, nous, de décider en tant que citoyens ce qu'on doit faire de ce monde.
On a un message de Dominique Proust, qui est astrophysicien. Il nous dit ceci, André Braik était un merveilleux ami avec qui on passait régulièrement de longues et tardives soirées, notamment en Bretagne, à Fréhel. Mon seul problème fut par deux fois de l'interpréter en langue des signes pour les sourds lors de conférences en raison de son débit. J'étais absolument épuisé, nous écrit Dominique Proust, qu'on salue chaleureusement. Bonjour Bruno Monflier.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes l'organisateur du Festival de Florence dans le Gers, qui se tient chaque été au mois d'août. André Braik qui est venu très souvent, et vous avez vu à quel point le public l'aimait, je crois, là-bas.
Oui, mais c'était vraiment André Braik, c'était quelqu'un que le public attendait, que le public réclamait d'ailleurs tous les ans, parce qu'il avait une capacité absolument extraordinaire de s'adresser aux gens, de leur dire des choses qui les intéressaient. Et en fait, André Braik, il faisait une conférence, bien sûr, qui faisait passer des messages sur le plan scientifique, il y avait du contenu, mais c'était un véritable show, en fait,
ces
conférences. Ouais. Et il savait intéresser les gens, il y mettait tout lui-même, en fait, il mettait dans ses conférences ce qu'il était lui-même, et il arrivait à faire sentir que la science n'était pas quelque chose comme ça d'abstrait, qui n'avait rien à voir avec la vie quotidienne. Il savait remettre en fait la science en perspective dans le cadre de la société, des soucis, des préoccupations quotidiennes des gens, et je crois que c'est pour ça qu'il était particulièrement apprécié, et aussi bien sûr parce qu'il était drôle, ses conférences étaient émaillées d'anecdotes, étaient émaillées d'histoires, et il arrivait, et il était en même temps très, très vrai, très sympathique, et donc il passait merveilleusement bien. Je pense que il y a très 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 peu de scientifiques et de gens en général, d'ailleurs, qui ont cette capacité de faire passer les choses, qui ont cette capacité d'être écoutés. Et de ce point de vue-là, vraiment, c'est une disparition dramatique et on n'en remplacera pas André, c'est sûr.
C'était un showman, Mario Dillon-Chicourt, vous qui connaissez bien la scène aussi, avec du swing.
Oh là 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 là, c'était toujours un bonheur que de l'inviter. On savait qu'on allait faire une bonne émission, Mathieu.
C'est vrai, avant on était peinards. Quand on était fatigué, on invitait André, il s'occupait de tout.
Voilà, parce exactement. On savait qu'il allait capter l'attention, justement, parce qu'il était toujours tellement drôle.
Philippe. Oui, parce que en conférence et tout le temps, il avait aussi une arme redoutable pour vulgariser, pour intéresser les gens, c'était l'humour.
Ouais, exactement.
Il débordait d'humour, il y avait parfois des moments où ça frôlait le de funeste dans les conférences, mais toujours avec un contenu et un fond toujours présent.
Ouais,
toujours
avec ses collègues scientifiques également, Sébastien Charnoz, il avait le sens de l'amitié, de la convivialité.
Tout à fait, des anecdotes, j'en ai plein. C'est quelqu'un avec beaucoup d'humour, une très grande humanité. Moi, je me rappelle une fois, c'était en 2007, j'avais publié un papier sur des satellites dans Saturne. D'ailleurs, j'étais passé chez Mario D, là, à ce moment-là, sur des satellites dans Saturne qui avaient des gros bourrelets à l'équateur parce qu'ils accrétaient du matériau des anneaux. Ça a fait beaucoup rire André, et André avait fait ma présentation à Los Angeles à ma place. Il avait fait tout un truc sur le fait que quand on prend de l'âge, on prend des bourrelets. Il avait appelé ça les Love Handles, ce qui veut dire les poignées d'amour des satellites de Saturne, et toute la salle était écroulée de rire. Mais je souhaiterais dire quelque chose. Effectivement, c'était quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais je pense que ce qui le distingue de pas mal de scientifiques, malheureusement, d'aujourd'hui, c'est que c'était un scientifique humaniste. C'était quelqu'un qui avait fait ses lettres aussi, qui était très cultivé, qui savait faire des ponts entre l'histoire, la philosophie et sa discipline. Chose qu'aujourd'hui, on fait de moins en moins, malheureusement,
parce que c'est de la spécialisation.
De la trop grande spécialisation. Mmh. Et André avec ça. Et dernière chose que je voudrais dire, c'est presque un lieu commun de dire que André était un enthousiaste. Mais ça, c'est mon père qui me l'a fait remarquer ce matin, parce que mon père connaissait André. Il m'a dit, d'où vient le mot enthousiaste? Ça vient du grec entheos. Et entheos signifie avoir un dieu en soi.
Ah, silence là.
Et je pense.
Allez, Bruno.
C'était André.
Monflier, on va retourner vers vous à Florence dans le Gers. Parlez-nous un petit peu des conférences, justement, parce que vous aussi, vous avez vécu très, très tard ces moments avec le public.
Oui, il était était, André était d'une générosité incroyable, et il était vraiment passionné. Il venait jamais, je l'ai vu venir faire une conférence comme une corvée, même si quelquefois pour lui c'était difficile de venir parce qu'il était extrêmement pris, extrêmement occupé. Donc c'était un peu une angoisse d'ailleurs pour un organisateur, parce que il avait la conférence à 8h et il arrivait à 8h moins le quart, mais il arrivait toujours, il a toujours été là. Et par contre, une fois qu'il était sur scène, là on pouvait plus l'arrêter. Moi je me souviens d'un soir à Florence où il a fait une conférence qui a duré 4 heures. Commençait la conférence à 9h, elle s'est terminée à 1h du matin, et puis à 1h du matin on est allé prendre un verre chez le maire, l'élu de la ville, et puis il a continué sa conférence, il a continué à discuter, puis je l'ai ramené à la ferme des Étoiles, là où il était hébergé.
Il continuait toujours,
et alors on est resté un moment à discuter avec lui dans la cuisine, il avait toujours plein de choses à dire, et à un moment je me suis dit, mais attends, demain moi j'ai quand même encore, je suis fatigué, il y a des lui, il n'était jamais fatigué. Alors petit à petit, je l'ai amené dans l'escalier, marche par marche, jusqu'à la porte de sa chambre. Et vers 3h du matin, j'ai réussi à fermer la porte de la chambre et lui dire « André, à demain ». Et le lendemain matin, il était là en pleine forme. On avait l'impression que rien ne s'était passé.
Ouais, Bruno Monfilier, on peut dire que ce festival d'astronomie de Florence aura lieu du 6 au 12 août prochain. Hein. Ça sera le 26e,
oui.
C'est ça?
Oui. Ce sera le 26e. Et vous savez peut-être qu'on devait remettre un prix, ouais, à André, qui est le prix du livre, le prix de l'AFA du livre Astro. Et donc, on a décidé avec l'AFA, avec les autres partenaires de ce prix, de lui rendre un hommage en fait ce jour-là au Festival de Florence, de lui remettre malheureusement le prix à titre posthume, mais surtout d'évoquer à cette occasion, comme vous le faites aujourd'hui dans votre belle émission, d'évoquer André Braïc et son passage au Festival, puisqu'il est venu 8 fois en fait. Hein.
Ouais, merci beaucoup pour votre témoignage, Bruno Monfilier. Le 25 janvier dernier, on avait invité André Braïc simplement parce qu'on avait envie de le voir, de l'entendre. Mmh. On savait qu'il était très malade, il n'avait pas de livre à promouvoir en particulier, il avait calé sa venue entre deux longs séjours à l'hôpital. Et donc on avait pris le prétexte de l'annonce de la possible découverte d'une 9e planète dans le système solaire pour le recevoir. C'était donc la dernière fois qu'on l'accueillit dans l'émission. Voici quelques minutes de cet entretien.
La situation est la suivante, c'est qu'en gros, au-delà de Neptune, on a trouvé plein de petits corps qu'on peut appeler des astéroïdes. Et ceux qui avaient imaginé que de tels petits corps existent s'appelaient Kuiper et Edgeworth dans les années 1940 à peu près, d'où ce qu'on appelle maintenant la ceinture d'Edgeworth-Kuiper, avec plein d'objets. Alors ces objets, ils tournent autour du Soleil, et ils sont évidemment soumis à l'attraction gravitationnelle des planètes, aussi bien de Neptune et d'autres. Et d'ailleurs, leur position dans le ciel n'est pas quelconque. Ils sont à des endroits bien précis, il y a des phénomènes de résonance, etc. Mais en plus de ça, il semble que certains soient un petit peu alignés dans certaines directions, des ellipses un petit peu alignées. On s'est dit, ah, il y a peut-être une perturbation. Mais une perturbation par quoi? Alors, Brown et son collaborateur ont trouvé une solution possible, c'est-à-dire un objet très lointain, sur une orbite très excentrique, tellement loin qu'il reçoit peu de lumière du Soleil, donc on n'arrive pas à le voir pour l'instant, disons. Et puis, pas trop loin, parce que sinon il s'évaderait du système solaire. Mais après tout, rien ne prouve que cette solution est unique. On pourrait imaginer que le même effet est produit par un objet plus petit, mais plus près, ou plus gros, et plus loin, ouais, ou par une famille d'objets. On pourrait imaginer qu'il y a 4 ou 5 objets. Donc en gros, le message que nous donne le calcul de Brown, ce calcul est intéressant, c'est une simulation numérique, en disant il est possible que dans le système solaire, aux confins du système, il existe encore quelque chose.
Quelle histoire, quand
mais
même.
Mais ça, je vous avoue qu'il y a 40 ans, on le disait déjà.
Oui.
Simplement, ça a été quantifié, puisqu'il a fait un modèle, c'est une solution possible. Mais je vous dis, il y a d'autres solutions possibles. Alors, je vous avoue que j'ai pas étudié l'article de Brown, et j'ai pas refait les calculs, j'ai pas eu le temps, mais simplement, je dirais prudence. Et là, nous venons sur deux aspects. Il y a un aspect passionnant, c'est-à-dire que l'astronomie, finalement, comme la science en général, c'est les découvertes incessantes.
Mais c'est ça, parce que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Absolument. Même dans notre système solaire, on peut encore découvrir des planètes.
Et on voit bien le hiatus qu'il y a entre le monde de tous les jours et quelquefois les nouvelles qu'on vous annonce, qui est l'écume des jours, ou des gens qui répètent le même message depuis 2000 ans, hein, et certains qui l'ont mal interprété. Et puis le fait que la science sans arrêt est renouvelée, que le doute, que l'aventure, que la connaissance, on voit ce hiatus, et laquelle science est souvent absente des nouvelles de chaque jour, en quelque sorte.
Il y a quand même un coup de com', quoi, là-dessous.
Alors,
très clairement.
C'est un côté passionnant. Par contre, il y a un autre côté qui est un peu dangereux, je trouve, maintenant. C'est que les différents gouvernements des différents pays se sont mis dans le crâne que c'est aux scientifiques de trouver les moyens de financement. Ce qui, pour moi, me paraît une aberration. Une grande partie des chercheurs mondiaux, pas que français, européens, américains et autres, passent leur temps à faire des demandes. Alors, ils passent un temps fou à faire ça. De temps en temps, ils examinent les demandes des autres. Ce qui fait que quand ils reçoivent de l'argent, ils n'ont pas le temps de dépenser. Mais c'est pas grave, hein. Le gouvernement est content parce qu'il pense que l'argent du contribuable est bien dépensé. C'est une aberration complète.
Mais là, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on voit l'annonce quand même de Mike Brown la semaine dernière et on a appris là, ce week-end, que ça y est, les crédits étaient débloqués pour aller chercher cette fameuse 9e planète.
Comme les scientifiques sont pas totalement idiots, ils ont compris que s'ils font un peu de publicité, ils ont plus de chances d'avoir des crédits. Alors regardez, à chaque fois que le Congrès américain, par exemple, va discuter des budgets de NASA, comme par hasard, il annonce de la NASA. Je vous citerai un exemple récent, quand la NASA, il y a 3 ou 4 mois, nous annonce qu'elle va faire une conférence de presse le lendemain extraordinaire. Moi, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Le lendemain, on annonce qu'il y a de l'eau sur Mars. C'était connu depuis 30 ans. Mais le Congrès américain s'étant réuni a donné les crédits à la NASA, puisque les télévisions, les radios américaines en parlaient. Donc attention, ne pas confondre communication et information.
Alors, les anneaux de Neptune, les arcs de Neptune, ça, on vous les doit, André Braïc.
J'ai eu la chance de trouver ça. C'est une grande chance parce que c'est en observant le passage de Neptune devant une étoile que la lumière a été interrompue avant que la planète ne passe devant l'étoile. Et c'était la présence d'arcs autour de ça. Alors, ayant eu la chance de trouver cela, j'ai eu le privilège de nommer ces arcs. Et donc, je les ai appelés. Je vous rappelle, on est en 1989.
Il
y a un mur qui tombe à Berlin, qu'il y a des étudiants qui manifestent à Pékin, que c'est le bicentenaire des droits de l'homme, etc.
Ça, c'est pour Drouel, tout ce que vous nous dites, André Braïc. Fabrice.
Absolument, j'écoute
attentivement. C'est un beau numéro d'Affaires Sensibles.
Et donc, je les ai appelés liberté, égalité, fraternité. Ouais. Et alors, le problème que j'ai eu, c'est qu'une de mes étudiantes, Cécile Ferrari, de l'époque, qui maintenant est professeure à Paris d'Hydro, Cécile Ferrari, a trouvé un quatrième arc. Alors, on s'est dit comment l'appeler, on va mettre un mot commençant par C, comme Cécile, on l'a appelé courage, qui donne courage, liberté, égalité, fraternité. Mais quand vous prenez les premières lettres de ces mots-là, ça fait clé. Et donc c'est la clé, c'est quoi? C'est la clé, en anglais, c'est la clé de musique pour la clé de la portée. En français, la clé, c'est pour ouvrir la porte. Et donc laissons les Anglais jouer de la musique pendant que nous on va essayer de comprendre ce qui se passe.
Est-ce que les anneaux ont l'âge de leur planète?
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Absolument.
Tout a été créé en même temps.
Tout a démarré il y a même temps. C'est-à-dire il y a 4,56 milliards d'années. Et je vous dis 4,56, ce qui n'est pas 4,57 ni 4,55.
Oui, c'est très précis.
Oui,
et en combien de temps ça se forme une planète?
Oh, c'est assez rapide. C'est quelques centaines de millions d'années. Ce qui, à l'échelle des milliards d'années de l'univers, est un phénomène bref.
Ouais. Comment Jupiter, Saturne, ne crée-t-elle pas une telle rotation sur elle-même? Est-ce qu'elle ne crée pas des événements climatiques?
Alors, ce qui est passionnant dans le cas de Jupiter, Saturne, mais tous ces corps de Uranus et Neptune, c'est qu'il y a une climatologie passionnante. Il y a là-bas des ouragans, des tempêtes,
c'est grande échelle là-bas.
Etc. Voilà. Et donc, quand on essaie de comprendre le climat de la Terre, ce qui est une chose qui n'est pas facile, on n'a qu'une Terre sous la main à se mettre. Donc, le fait d'étudier le climat de ces planètes, Jupiter, etc., Neptune, Saturne et autres, nous permet de mieux comprendre. Un peu comme en laboratoire, on fait des simulations pour comprendre ce qui se passe, et je peux vous dire que la connaissance du climat de la Terre a fait des progrès remarquables
grâce
à l'étude de Jupiter, de Saturne et autres. Alors, les phénomènes sont extraordinaires. Vous avez des vents qui soufflent à 2000 km/h.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
C'est, donc, c'est,
là, des geysers de 20 km. Bon,
il faut bien fixer votre chapeau. Hein,
c'est ça.
Vous avez des tourbillons, vous avez des espèces d'ouragans qui sont plus gros que la Terre. Vous avez des phénomènes. C'est passionnant ce qui s'y passe. Et si vous aimez les grosses équations avec plein de termes et résoudre ça sur des gros ordinateurs, vous vous régalez en comparant avec ce qui se passe sur Jupiter et Saturne. C'est un milieu très actif.
David demande, est-ce qu'il y a d'autres modèles de systèmes solaires dans l'univers?
Probablement. Il y en a un nombre très grand, puisque la grande découverte de ces dernières années, c'est qu'il existe dans l'univers plus de planètes qu'il n'y a d'étoiles.
Ouais.
Nous savons actuellement qu'il y a quelques milliers, de milliards, de milliards d'étoiles, et des planètes, il y en a beaucoup plus. Alors, si chaque étoile en a 4, 5, 6, 7 ou 8, je vous laisse deviner combien il y a tout ce qu'on n'a pas trouvé. En gros, on procède comme pour les sondages d'opinion, vous interrogez dans la rue 1000 ou 2000 personnes, et vous avez une idée de ce qu'ont voté les millions d'autres. Et on a regardé quelques milliers d'étoiles, on a vu combien de planètes il y avait autour d'elles, et on en déduit ce qui se passe dans l'univers, et c'est ça la grande découverte du début du 21e siècle, c'est qu'il y a plein de planètes, ce qui va complètement changer notre histoire, pas demain, mais pour le 3e et 4e millénaire.
Voilà, c'était les derniers mots échangés avec André Braïc le 25 janvier dernier. On se régale toujours à l'écouter. Merci Marie-Odile Monchicourt.
Merci à vous de m'avoir invité à faire cet hommage, parce que vraiment, c'était un homme tellement extraordinaire.
Merci Philippe Hénarejos.
Merci.
Et Sébastien Charnoz, merci beaucoup
d'être
venu nous raconter vos années de collaboration avec votre prof André Braïc. Émission à réécouter évidemment en la podcastant sur franceinter.fr.